CFM Le Mag, Eugène via la catalogue raisonné de l'œuvre gravée. C'est le titre du livre de Jean Costecalde présenté il y a quelques jours au musée Fenaille. Plus de 600 pages et 635 illustrations. Un livre de 3,5 kg, mais l'artiste aveyronnais Eugène Viala valait bien ça. Jean Costecalde.
Il est né en 1859 à Salcuran et il est mort en 1913 à Salcuran. Il a eu un atelier à Rodez, dans une petite rue qui donne sur la cathédrale. Et il a eu un atelier aussi à Neuilly, près de Paris, fourni par le mécène Maurice Fenaille. Donc ce qui lui permettait de faire des va-et-vient entre la capitale et sa région. Dès qu'il était à Paris, il ne pensait plus qu'à revenir en Rouergue, et peut-être vice-versa, je ne sais pas. Avant tout, c'est un graveur. Mais même un aquafortiste, puisque sa spécialité, c'était l'eau forte, la gravure à l'eau forte. Il n'empêche qu'il est aussi connu pour ses peintures, ses aquarelles, et pour ses écrits, poèmes ou nouvelles. Mais là où il sort du lot, où il est vraiment remarquable, c'est dans sa gravure.
Vous pouvez nous rappeler la technique eau forte de quoi ?
Oui, mais l'eau forte, c'est l'acide, c'est le nom de l'acide, l'acide nitrique en l'occurrence. Donc en fait, on prend une plaque de métal, généralement de cuivre, voire de zinc, parce que zinc c'est quand même moins cher que le cuivre. Le zinc étant quand même plus malléable et résiste moins à la pression de la presse. Donc on prend une plaque de métal, on met une couche de vernis assez dure dessus, et après, avec une pointe, on fait juste qu'enlever le vernis selon le dessin que l'on propose. Une fois que le vernis est dégagé sur ces lignes, on fait tremper la plaque dans un bain d'acide. Évidemment, l'acide attaque la plaque là où elle est découverte. Ça donne des morsures très nettes. Après, si on veut des morsures plus larges, on rebouche au vernis celles qui conviennent déjà et on refait notre bain, bon, etc. quoi. Ça, c'est pour l'acide. Après, on peut aussi l'utiliser aussi ce qu'on appelle l'aquatinte. L'aquatinte, ce sont des grains de résine que l'on chauffe et que l'on pulvérise avec un petit chalumeau ou une boîte à souffler, que l'on pulvérise sur la plaque. Donc ces grains se collent sur la plaque. Pareil, on fait un passage à l'acide et l'acide, toujours le même principe, il attaque là où le métal est découvert. Donc après, on nettoie le tout, évidemment, et ça donne un aspect de petits points qui sert à étager les valeurs du noir. On peut avoir des noirs très opaques, très doux, très veloutés. Le velouté du noir est important. Une fois que la plaque est constituée, on fait un ancrage, on essuie. Donc normalement, l'encre est que dans les creux. Bon, on peut ménager des effets de la vie avec des essuyages à la gaze ou à la main, carrément. Bon. Et puis, on dispose le papier sur des langes humides et on passe le tout à la presse à bras. Et donc, c'est la technique de l'estampage. Et donc, dans les œuvres, on trouve la marque de la cuvette. Et c'est pour ça que dans l'ouvrage, j'ai donné, lorsqu'il y avait des différences, les dimensions de la cuvette et les dimensions du sujet. Parce que des fois, il y avait des marges internes, des marges réservées. Beaucoup font référence à des paysages aveyronnais, mais des paysages qu'il a su rendre un peu onirique, un peu avec une intimité, d'ailleurs intime patrie, avec une vapeur, comme je peux dire. Il a su en rendre l'âme, voilà. Il voyageait en diligence, si l'on en croit certains récits, au travers de l'Aveyron, et même dans le Lot, puisqu'il y a eu un ouvrage commandité par un journaliste qui s'appelle Jean de Bonnefond.
Cet ouvrage, Jean Costecalde, catalogue raisonné de l'œuvre gravée Eugène Viala, on peut considérer que c'est l'intégrale de l'œuvre ?
Eh bien, je l'espère, c'est ce à quoi je me suis appliqué, mais par modestie, il faut toujours penser que les œuvres ayant vécu leur tribulation, ils puissent un jour en apparaître une nouvelle, enfin une inconnue, quoi. Non répertorié. J'espère qu'il y en aura peu quand même.
Voilà. Si plus de 600 pages, plus de 600 œuvres présentées, hein, t'es très prolixe.
Oui, il était très prolixe. Alors 600 pages, bon, il y a 482 notices, puisque chaque notice peut correspondre à une plaque. Mais la plaque a pu être retravaillée, ce qui donne des états, ou a pu être réduite, ce qui donne aussi des états de nouvelles dimensions. Donc 482 notices, effectivement, qui couvrent un ensemble de 630 eaux fortes, hein, que l'on peut trouver. dans la nature. C'est beaucoup, parce que si on le compare aux graveurs de son temps, Félix Buau, Charles Mérion, François-Nicolas Chifflard, Odilon Redon, bon, etc., ils sont plutôt autour de 200, et lui quand même 460. Seuls les lithographes, comme Daumier, ont eu des productions beaucoup, beaucoup plus fortes, jusqu'à 4000. Mais la lithographie, c'est quand même plutôt du dessin que de la gravure, puisque ça se fait avec un crayon. Donc, ces paysages aveyronnais, il a su en rendre l'âme, comme je disais, mais souvent aussi, ils servent de cadre à des références mythologiques, que ce soit Orphée, que ce soit Chiron, que ce soit, bon, à des références mythologiques qu'il a replacées chez lui. Par exemple, je peux citer une eau-forte qui s'appelle Élévation, où l'on voit un centaure qui est en train de ravir une jeune femme, puisque c'était leur principale activité d'ailleurs. Et il est sur les cosses couronnées de Millau. On voit très bien les falaises là qui entourent Millau. Hein, voilà. De son vivant, donc effectivement, les gens étaient très contents et de retrouver leur décor, leur paysage. Mais après, il y a eu donc toute une veine symbolique qui a été connue plutôt à Paris, parce qu'il y avait les expositions dans les salons parisiens, la SNBA, la Société Nationale des Beaux-Arts, chaque année il y avait des envois. Donc toute une veine symbolique avec des thèmes assez récurrents, propres à ce 19e siècle finissant, un peu lutte des classes, un peu laissé pour compte, bon, des choses comme ça. Et puis, à mon sens, là où il s'épanouit vraiment, c'est dans le fantastique pur, où vraiment il prend une dimension qui permet de le comparer aux grandes signatures de son temps, à Goya, à Redon. Voilà. Donc ces grandes planches fantastiques, et elles se trouvent évidemment à la fin du catalogue raisonné, puisque le catalogue raisonné est obligé de suivre le pas de la progression de l'œuvre de l'artiste. Donc au départ, on commence par des petits paysages, et puis on finit par ces grandes planches fantastiques. Bon, très bien. Donc là, c'est soit son imaginaire, soit ses réminiscences littéraires. On peut trouver des planches qui reprennent un poème de Lord Byron qui s'appelle Le Corsaire, qui reprennent le roman de Chateaubriand, Atala, des ballades de Victor Hugo, Les Deux Archers. Je pourrais vous en citer bien d'autres. La cote monte sans quand même atteindre celle des graveurs établis comme Goya ou Redon. Hein, on n'en est pas là.
C'est-à-dire, moi j'ai l'impression de voir assez souvent des œuvres de Eugène Vialard sur les sites aux vendeurs enchères, même Le Bon Coin. Mmh. On est dans quoi? Dans les 80 euros, 60 euros, 100 euros?
C'est très variable et je ne dirai aucun prix parce que c'est pas moi qui fixe le marché, mais c'est très variable. Alors d'abord, c'est variable par rapport à la qualité de la feuille que l'on trouve, hein, si elle est piquée, si elle est déchirée, gna gna, voilà. C'est comme les timbres, hein, il faut pas qu'il y ait une dent qui... Bon. La qualité... Ensuite, plus l'œuvre est importante, ne serait-ce qu'en surface, bon, plus le prix est aussi par rapport à sa rareté. Hein. Alors les paysages, ils ont été tirés peut-être par certains éditeurs comme Carrère à Rodez, ils ont été tirés un peu à l'excès. Donc effectivement, ils n'ont pas une valeur extraordinaire, même s'ils gardent beaucoup de charme. En revanche, les grandes planches fantastiques qui elles, ont été tirées à une dizaine d'exemplaires, elle, on a des cotes très fortes, là. Oui.
Genre, le maximum?
Non, je ne le dirai pas.
Non, mais quand même, c'est 1000, c'est 10 000, c'est 100 000?
Ah non, oh, non, 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 non.
Alors, plutôt 1000?
Non, je ne donnerai pas de prix.
D'accord, d'accord. Bon, alors peut-être vous ne donnerez pas de prix, puisque vous-même, vous êtes grand collectionneur d'Eugène Vialard.
Collectionneur.
Ouais. Collectionneur d'Eugène Vialard. Vous en avez combien, vous? Ça, vous avez donné le chiffre ou pas?
Un peu plus.
D'accord. Est-ce que pour vous... Mission accomplie, l'ouvrage, 10 ans de travail, hein. Oui. Il est complet ou il y a quelque chose, une œuvre que vous n'avez pas réussi à retrouver ou des choses que vous ignorez peut-être?
Non, pour moi il est complet par rapport à ma connaissance. Toutes les œuvres ont leurs photos, donc ça veut dire que je les connais, à l'exception peut-être de deux ou trois dont j'ai trouvé des références mais dont je n'ai pas trouvé la photo. Mais ça ne dépasse pas deux ou trois, et c'est peut-être plutôt deux que trois même.
Et en tête, vous avez le nom des fois que quelqu'un qui nous écoute l'est dans son grenier?
Ah ben il le verra dans le catalogue, parce que parce qu'il n'y a pas la photo.
Le catalogue raisonné de l'œuvre gravée d'Eugène Viala, signé Jean Costecalde, a été présenté au musée Fenaille lundi par Aurélien Pierre, directeur des musées de Rodez Agglomération, les musées Fenaille et le musée Denis Puech. Il y a plusieurs raisons à cela. Les deux musées ont un lien avec Eugène Viala, le musée Denis Puech, notamment Aurélien Pierre.
La collection publique la plus importante est au musée Denis Puech. Il y en a plus de 150 qui sont conservés.
Donc ça fait quoi? Ça fait un petit quart de l'œuvre totale recensée de l'artiste.
Ouais, un petit quart.
Et alors le rapport avec Fenaille?
Mais Fenaille a été un des grands mécènes, un des grands soutiens de Eugène Viala. Sur la dernière partie de sa vie, il l'a accompagné, il l'a soutenu, il lui a passé des commandes artistiques pour qu'il trouve une espèce de petite assurance financière pour survivre, puisqu'il a quand même une vie assez difficile, quand même, dans tous les cas.
Alors, c'était déjà de bonnes raisons de s'intéresser à cet artiste. Une autre, cet ouvrage, il est proposé ici à la vente, mais vous ne faites pas juste vendeur de livres, vous avez participé à son élaboration.
Oui, donc nous on l'a coédité, c'est-à-dire c'est nous qui avons assuré l'édition avec un éditeur d'art spécialisé qui s'appelle Liénard, qui est installé à Paris, qui travaille avec les grands musées nationaux, avec le Louvre, Orsay ou autre, et pour donc avoir cette qualité éditoriale, ce suivi aussi éditorial. Mais donc nous on a vraiment accompagné, voilà, à la fois toutes les prises de vue photo, puisqu'il y a près de 635 images, donc il y a eu tout ce travail aussi de prise de vue photographique, et puis de tout le travail de suivi, pour faire le lien entre le travail scientifique de Jean Costecalde et puis l'éditeur, pour transcrire un petit peu tout ça, et puis l'aider dans l'accompagnement. Donc c'est une année de travail, de relecture, de correction des images à partir des originaux. C'est vraiment une année. C'est 1,5 million de signes. Hein, c'est 635 pages. C'est vraiment... c'est 3,5 kilos, l'ouvrage.
Il coûte 59 €, mais au kilo, c'est pas cher.
C'est pas cher au kilo. Non, c'est moins cher qu'une entrecôte. Non, ouais. Donc,
Ce travail de co-éditeur, c'est régulier vous faites ça ou c'est une des premières fois qu'il y a ce travail?
Non, selon les expositions, on travaille parfois avec des éditeurs comme ça, nationaux, sur notre projet... précédente exposition sur l'île de Pâques, on avait travaillé avec Actes Sud, par exemple. Et là, ça s'est prêté aussi parce que ça donne une dimension aussi nationale en termes de diffusion dans les librairies, etc. Donc, pour nous aussi, cet ouvrage doit participer aussi à la reconnaissance de l'œuvre gravée de Viala. Donc, c'est important aussi qu'il soit diffusé, qu'il soit connu dans un réseau. Et on espère, à très court terme aussi, de pouvoir proposer une exposition Viala à Paris. Voilà, ça fait partie de nos projets.
Ce travail, oui, vous avez un petit peu, alors, entre guillemets, contrôlé, surveillé celui de Jean Costecalde, parce qu'il a l'air super connaisseur, collectionneur, mais bon, ça pourrait très bien être un escroc.
Non, c'est pas le cas, non, c'est sûr. Non, on a suivi, bien sûr, de très près, et c'est vraiment exemplaire ce qu'il a pu faire depuis des années. Il fait partie, donc, de ces autodidactes passionnés, qui maintenant rivalisent, je dirais, avec les plus grands spécialistes, dans le domaine de la gravure et surtout de Eugène Viala. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'il s'est permis aussi de rédiger chaque fois des descriptions de chacune de ses œuvres. Et de par son parcours, il s'est permis aussi, je dirais, une description beaucoup plus littéraire. Ce que n'aurait pas fait, je dirais, un scientifique, un universitaire, qui serait vraiment quelque chose de très factuel, très descriptif. Mais lui s'est permis, je dirais, dans un style qui lui est propre. Donc, ce qui fait que c'est une lecture aussi très agréable, un peu comme on pourrait lire un roman. Donc, c'est très littéraire. C'est ce qui fait aussi le petit piment, je trouve, l'intérêt de cet ouvrage. Voilà. C'est que c'est aussi l'ouvrage de Jean Costecalde qui est marqué par son style, par son érudition. Donc, c'est quelque chose qu'on peut compulser. Alors, on va pas le prendre sous sa table de chevet, par son poids, mais donc voilà, il faut un peu s'installer confortablement pour le lire. Mais voilà, on peut aussi un petit peu picorer, rentrer dans cet univers qui est fascinant, parce que vous avez, près de 480 notices, autant d'histoires, et puis cette capacité qu'a cet artiste, qui est, à mon humble avis, un des grands artistes aveyronnais du XXe siècle. Et c'est intéressant aussi de dire qu'il fait partie de ces rares artistes aveyronnais très appréciés par Pierre Soulages, par exemple. Pierre Soulages aime beaucoup l'œuvre de Viala, a quelques gravures de Viala, est très attaché. Et je ne ferai pas de parallèle entre les deux, mais Viala est un des grands artistes méconnus, malheureusement, au plan national. Et on espère, à travers cet ouvrage-là, qu'on va participer à sa reconnaissance et qui sera au panthéon des grands graveurs français dans la digne lignée, et on peut le dire de Goya, et puis plus tard d'Odilon Redon ou d'autres plus connus, mais voilà, c'est un immense graveur.
Alors cet ouvrage, il est présenté ici aujourd'hui au musée Fenaille. parce qu'en attendant peut-être la rouverture du lieu, hein, puisque les musées devraient être les premiers lieux culturels rouverts au mois de mai.
C'est hein ça.
Bon,
c'est ça.
Mais enfin, en attendant, ce livre, on peut d'ores et déjà l'acheter aujourd'hui, demain, après-demain, au musée. L'espace boutique est ouvert.
Alors, non, l'espace boutique n'est pas ouvert, mais on peut l'acheter donc en passant par l'intermédiaire de notre site internet. On a un dispositif un peu de, voilà, de click and collect, de boutique en ligne, et on peut venir le retirer sur rendez-vous avec, en ayant même la possibilité d'avoir aussi une dédicace de l'auteur. Donc on, on propose, voilà, pour les plus fervents amateurs de l'Ode Viala. Donc il y a aussi cette possibilité-là. Et c'est un ouvrage, je dirais, alors le prix est, paraît conséquent, 59 euros, mais au regard, je dirais, du volume, de cette qualité éditoriale, c'est souvent des ouvrages qui dépassent plutôt, pour les catalogues raisonnés, parfois les 150 euros ou les 200 euros. Donc là, on a fait aussi des efforts pour que le prix de l'ouvrage, alors, sans qu'il soit très attractif, c'est pas un livre de poche, mais c'est vraiment un très très bel ouvrage qui fera date... et à conseiller.
Pour l'aspect dédicace et l'achat, l'adresse internet, comment ça, ou il y a un numéro
musée
de téléphone,
Fenaille,
comment?
Oui, musée Fenaille, j'ai plus l'adresse exacte, mais dans un moteur de recherche, vous tapez musée Fenaille, vous tomberez sur notre site internet, et sur la page dédiée à la boutique librairie du musée, vous aurez toutes les informations pour le commander en ligne.
Alors, dernière chose, en quoi j'évoquais la rouverture des musées, ça devrait être, si on a bien compris, puis même logiquement, les premiers lieux culturels rouverts au public à la mi-mai. Donc vous y travaillez, vous préparez?
Alors je dirais, on est prêts, nous, depuis qu'on a fermé, parce que pour nous, c'est pas si compliqué que ça, puisqu'avant on avait déjà des jauges, etc. Donc on pourrait ouvrir très rapidement. Non, on est prêts, et puis surtout, on est prêts par rapport aux événements qui vont arriver. Donc je pense que quand on ouvrira à la mi-mai, on aura aussi une nouvelle exposition dans la collection permanente avec l'installation d'œuvres d'artistes flamands. Donc ça se prépare, ils vont venir la semaine prochaine, donc on va voir cette première exposition dans le parcours permanent.
Là, à Fenaille.
À Fenaille, okay. Voilà. Donc ça accompagnera les premiers visiteurs, okay. Voilà. Et puis ensuite notre grande exposition d'été avec le Louvre, voilà.
Cyclades,
voilà, qui va arriver le 12 juin, sur lequel on travaille. Donc on est bien occupé. Là, on est dans la dernière ligne droite. Mon impatient, voilà, d'avoir à la fois le musée qui ouvre, ces belles expositions, voilà, montrer tous ces beaux objets, et puis voilà, que le public un peu s'émerveille, pense à autre chose, voilà, prenne du plaisir, tout simplement.
Les œuvres flamandes, c'est quoi? Parce que moi, à part Rembrandt, je suis même pas sûr que ce soit flamand d'ailleurs.
Alors, ce sont des artistes contemporains flamands, donc ils sont des jeunes artistes qui ont à peine une quarantaine d'années et qui ont découvert le musée Fenaille il y a maintenant 3 ans, sont tombés un peu amoureux de ce musée et ont fait une proposition pour installer des œuvres dans le parcours permanent, donc qui vont rentrer en résonance avec les collections historiques. Donc l'exposition s'appelle Correspondance, et c'est 3 artistes, donc il y a Nick Ervink, Sophie Müller et Renato Nicolidi, qui viennent des Flandres, de la région de Gand, qui viennent installer, voilà, ça sera un parcours assez surprenant et puis très fort, donc je suis très heureux. Puis ça montre aussi l'attractivité de ce musée et le fait qu'auprès de certains artistes ou certains visiteurs, il y a un attachement particulier qui se crée avec ce lieu, voilà. Donc on est très contents d'avoir ces jeunes artistes qui sont très connus dans leur pays. Voilà, qui sont intéressés aussi pour présenter leur travail dans d'autres pays à l'étranger. Voilà.
Bon, vivement le mois de mai.
Voilà. Ouais.